Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle donc David Fogel, je suis dans cette assemblée depuis 25 ans, sauf erreur, voire un peu plus, et puis marié à Carole avec 3 enfants. Et puis sinon, dans la vie, dans le civil, en fait, je suis enseignant au gymnase à Nyon. Alors je sais ce que certains pensent d'entre vous, demander à un enseignant de parler du monde du travail. Qui plus est, après les vacances d'été. Mais bon, à vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire. Donc, en fait, il y a 3 choses que vous devez vous retenir dans ce qu'on va voir ce matin. C'est de voir quelle est la vision du travail. En gros, est-ce que le travail est une punition, une réalisation ou une vocation ? Alors, je précise juste que par travail, j'entends donc soit travail rémunéré, soit les tâches que vous faites qui ne sont pas forcément rémunérées. Par exemple, les grands-parents, des fois, font beaucoup de tâches de garde d'enfants qui ne sont pas du tout rémunérées, mais qui sont quand même considérées comme des tâches. Donc, du travail, donc c'est ce que vous faites, en fait, comme activité, rémunérée ou non. Alors après, d'où je suis parti aussi, c'est qu'on était au mois de juin-juillet quand on a discuté de ça, et au mois de juin-juillet, souvent, ce qu'on attend, c'est quoi ? Les vacances. Tout le monde espère être en vacances, espère avoir un temps où il ne va rien faire, espère avoir un temps où il ne va plus travailler, parce que c'est un peu le but, et puis attendre, en gros, la vraie vie. Et d'ailleurs, quand vous allez... Je ne sais pas s'il faut couper ce truc. Je dis ça comme ça. Parce que je bouge, hein, ça c'est un truc de... parce que quand vous voulez partir en vacances, vous imaginez des choses plutôt positives, bien évidemment. Et puis si vous tapez d'ailleurs sur Google « paradisiaque », vous avez beaucoup de chances de tomber là-dessus. Ce qui est quand même très beau. C'est Bora Bora, en l'occurrence. C'est ce genre d'image, ou ce genre d'image-là également. Autrement dit, c'est l'idée qu'on va ne rien faire pour le moment et que ça va être magique. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot « travail » nous encourage, en tout cas en français, à le penser, parce qu'en fait, le mot « travail » vient du latin « tripalium ». Et « tripalium », c'est quoi ? C'est ça. C'est un instrument de torture qui a donné ensuite « travail ». Ce qui explique peut-être le rapport des francophones au travail. Et pour ceux qui connaissent Game of Thrones, ça fait un peu blason de la maison Bolton, un petit peu. Donc, le mot travail, en fait, c'est les gens qui tourmentent. Hein. Les clercs et les chevaliers au Moyen-Âge considéraient que les gens qui travaillaient n'avaient pas de chance. Ils étaient en général extrêmement mal vus et vus comme inférieurs. D'ailleurs, dans la Bible, on pourrait, suivant la lecture qu'on fait des textes, penser que c'est un petit peu la même chose. Parce que vous prenez dans Genèse 3. Il, donc c'est Dieu, dit à l'homme, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Autrement dit, suivant la lecture qu'on fait des textes, on peut penser que le travail, c'est un endroit où on va avoir de la peine, Dieu nous le dit, on n'a pas de plaisir, a priori, on va devoir suer, travailler à la sueur de notre front pour avoir quelque chose. Autrement dit, rien n'est positif là-dedans. D'ailleurs, d'autres traditions religieuses disent la même chose à la même époque, semble-t-il. Vous avez, par exemple, les mythes babyloniens, où vous avez les dieux qui créent les hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus faire un certain nombre de tâches. Donc les dieux ne veulent plus travailler, donc ils créent les hommes pour faire le job qu'eux ne veulent plus faire. Même chose pour la boîte de Pandore dans les mythes grecs. Vous avez la boîte de Pandore, qui est une série de malheurs qui va se répandre sur la Terre, et dans tous ces malheurs, il y a le travail. Donc tout porterait à croire que, dans le fond, le travail est quelque chose de foncièrement négatif. Et en plus, Dieu se repose. Dieu acheva, Genèse 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc si Dieu se repose, est-ce que nous, on n'a pas le droit aussi de se reposer ? Est-ce qu'on n'a pas le droit aussi, nous, à des vacances ? On n'est pas forcément encouragé à travailler beaucoup. Et qui plus est, dans notre société, en tout cas en Occident, on est de plus en plus dans une société de divertissement ou de diversion, ça dépend, ou les deux. En l'occurrence, on a pas mal d'expressions et de manières de voir les choses qui nous encourage à attendre le week-end ou le temps où on ne travaille pas. On dit d'ailleurs, comment ça va ce matin ? Ouais, comme un lundi. On ne dit pas comme un vendredi, on dit comme un lundi. On attend en général le vendredi, ou bien les plus enthousiastes attendent le jeudredi aussi. C'est faire la fête le jeudi soir avant le vendredi. On attend la fête, on attend le paléo, le Montreux Jazz, on attend le mondial, l'euro, victoire de Federer à Wimbledon. on attend les vacances et en fait, tout dans notre société nous pousse à prendre du temps de loisir et donc de rien faire. Et puis, est-ce que c'est cela la... Et puis encore, une dernière chose, c'est que dans le monde du travail, vous avez souvent des études, des reportages, etc., qui parlent de quoi ? Du mobbing, du stress, du burn-out, des dépressions, etc., qui sont, pour une bonne part, souvent liées au monde du travail. Écoutez, les gens autour de vous, quand ils discutent de leur travail, ce n'est pas toujours hyper rigolo. Tout le monde saute pas de joie à l'idée d'aller au travail. Et je vous défie le dimanche soir, c'est-à-dire ce soir, de sauter de joie en disant « Oui, je vais aller au travail tout à l'heure. » Alors, pour aller voir les collègues, peut-être, mais pour travailler en tant que tel, pas toujours l'idée qu'on s'en fait. Et en l'occurrence, à mon avis, c'est une vision qu'on est en partie encouragé à prendre, mais qui, à mon avis, est fausse. Si vous regardez le texte, là j'ai mis en gras, c'est mon côté un peu prof, ce qu'il fallait lire. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Donc c'est-à-dire que Dieu, il se repose, mais avant, il a fait quelque chose. Et il se reposa au septième jour, et puis plus loin, c'est marqué, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors ça, c'est un peu embêtant. Pourquoi ? Parce que dans le plan de Dieu initial, Dieu demande à ce que l'homme travaille. L'homme n'est pas créé pour se tourner les pouces. Et ça, c'est avant la chute. Vous pouvez dire, ah ouais, mais attendez, il y a la chute, donc tout arrive, c'est malheureux, donc c'est une suite de choses horribles, mais avant, tout était parfait, puis l'homme ne faisait rien. Non, pas du tout. Avant la chute, Dieu dit qu'il faut que l'homme travaille. Donc on n'est pas là pour se dorer la pilule, a priori. Et ça va à l'encontre, en l'occurrence, des textes babyloniens, ça va à l'encontre des mythes grecs, comme quoi le travail, c'est pas une malédiction du tout. Dieu place l'homme pour faire quelque chose, pour cultiver, pour travailler dans ce jardin. Ça ne veut pas forcément dire que tout va être facile, que le travail va forcément être une immense partie de plaisir, mais en tout cas, ça fait partie du plan initial de Dieu avant la chute. Donc, si ce n'est pas une punition, vu qu'on est en général dans un monde binaire, ça doit donc être une réalisation. Tout doit être super et il faut, comme ce monsieur, réussir. Attention, donc la réalisation, c'est ça. Il vous livre le secret de sa réussite, si jamais. Et on a pas mal de textes ou de récits qui vont un petit peu dans ce sens-là. Alors, il y a tout d'abord le texte de la Genèse qui dit que le travail est important. Bon, okay. Il y a la parabole des talents, où Jésus nous dit qu'il faut travailler. Ou si nous, on ne travaille pas, au moins notre argent, lui, doit travailler. Et puis, il condamne celui qui n'a rien fait. Donc, ça pourrait nous encourager à viser ça. Il y a aussi Jésus qui travaille. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui attend sous un arbre pendant des jours, les bras croisés, que Dieu lui parle en faisant rien. Non, il a un job. On dit, hein, il est charpentier, qui plus est pas forcément un job hyper bien vu, au top de la société. Et puis, même Paul travaille. Vous dites, il va travailler pour l'Église, mais pas que. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il travailla chez eux, il demeura chez eux, il travailla, ils étaient faiseurs de tentes. D'ailleurs, c'est un truc un petit peu vexant pour les pasteurs, parce qu'on se rend compte que Paul travaillait à mi-temps pour l'Église, avec tout ce qu'il a fait. Bah pour nous aussi, hein, c'est un encouragement, parce qu'on se dit, finalement, si je suis à temps partiel, je pourrais faire autant que Paul, je sais pas. Donc ça, c'est dur pour notre orgueil, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand on se présente à quelqu'un, on pose en général trois questions. C'est un, comment vous appelez, vous habitez où, deuxième et troisième. Vous faites quoi dans la vie ? Il faut savoir à qui on parle. Puis en fonction, on dit ah bien, ou bien ah. Et en l'occurrence, le travail, c'est une grande part de notre identité. Il y a d'abord eu une étude qui est sortie, je crois que c'était cet été, sur la RTS, qui donnait les jobs en fonction de la difficulté des jobs. Alors, contrairement à la rumeur, ce n'est pas enseignant qui est le pire. Hein. Et en fait, ils ont regardé, ils ont corrélé au taux de suicide. Donc, ce n'est pas rigolo du tout. Ils ont corrélé au taux de suicide. Ils ont essayé de voir quels étaient les jobs les plus difficiles. Et vous savez quel est le job le plus difficile ? Chômeur. c'est chômeur, parce que c'est une part de votre identité qui part. Même chose d'ailleurs pour les gens qui vont à la retraite. Des fois, on avait un statut, on était telle ou telle position, et puis du jour au lendemain, on est retraité. Alors voilà, c'est pas forcément pas bien, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on a moins de position professionnelle, ça peut être relativement difficile à vivre, même si d'ailleurs les retraités font beaucoup de choses par ailleurs. Donc perdre son travail, c'est perdre une partie de son identité, et qui plus est, en fonction du job que vous avez, ou de la fonction que vous obtenez dans la société, vous allez avoir le privilège de dire des choses et d'être écouté. Je vous donne un exemple. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en 1996, le CEO et puis après président du conseil d'administration de Crédit Suisse, qui s'appelait Lucas Mulemann, c'était le golden boy qui était très écouté par beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce qu'à 46 ans, il est devenu le grand chef de Crédit Suisse, qui est quand même une des grosses, grosses banques en Suisse et dans le monde pour la gestion de fortune. Donc, Lucas Mulemann, 46 ans, devient le grand chef de cette entreprise très prestigieuse. Du coup, on écoute ce qu'il dit. Et en 2000, il fait 10 propositions pour la Suisse. Il fait une liste de 10 propositions. Et je me rappelle, parce qu'il y en avait une qui proposait de privatiser l'école. Il pensait que c'était une bonne idée de privatiser l'école. Bon. Alors, je ne discute pas de savoir si c'est bien ou pas bien de privatiser l'école, c'est pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle est la compétence de Lucas Mulemann pour savoir comment il faut faire le monde de l'enseignement ? Aucune. On aurait pu lui demander des conseils pour faire, je sais pas, des repas vegan, des conseils de couple, etc. Il n'aurait pas été plus compétent, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a écouté ? Et après, les gens discutaient, est-ce qu'il faut privatiser, pas, etc. C'est bien, c'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'on l'a écouté ? Parce qu'il était patron de Crédit Suisse. Et c'est qu'à cause de ça qu'on a commencé à l'écouter et à débattre de ses propositions. En 2002, il tombe en disgrâce, il est en plus embarqué dans le procès suissaire. Donc du coup, en 2003, il n'a plus de job, plus personne ne l'écoute. Si ça se trouve, il a toujours les super bonnes idées. Mais tout le monde s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus patron. Donc plus personne ne l'écoute. Donc en fait, notre société nous pousse aussi à valoriser un certain nombre de réussites professionnelles. Et puis on se demande d'ailleurs, du coup, si la société nous pousse à faire ça, si Dieu dit qu'il faut travailler, est-ce qu'on ne doit pas tous être des winners ? Là, j'ai mis des winners un petit peu. C'est qui le type avec le t-shirt noir ? Non, Elon Musk, si jamais à droite, celui qui fait les Tesla. Les autres, vous êtes tous reconnus, je pense. Steve Jobs, Federer. Oui, j'ai mis trois hommes, trois femmes, je fais attention. Et puis, bibliquement, vous avez pas mal de réussites. Abraham, il a une réussite professionnelle. Il a d'ailleurs trop de troupeaux à un moment donné, il doit les splitter. Vous avez le roi David, Salomon, vous avez Joseph qui devient quand même Premier ministre. Enfin voilà, c'est un petit peu une bible de winners, en gros, de gens qui gagnent. Alors dès lors, on peut se poser la question, est-ce que finalement être un bon chrétien, c'est pas réussir dans son entreprise quand même ? Accessoirement, avoir de l'argent et puis avoir un poste au top. On pourrait le croire. Et d'ailleurs, quand on était, parce qu'on a fait une année en Australie avec ma famille, et quand on était en Australie, on avait dans certaines églises, on passait. Moi, j'ai toujours un peu l'impression que Dieu guérissait tout, à peu près. Quand vous aviez un problème, vous priez, c'était forcément résolu, si vous aviez la foi. En général, professionnellement, vous pouviez assez rapidement accéder à un poste plus important, ce qui permettait de donner plus après à la dîme. Et Dieu vous aidait aussi, accessoirement, à avoir une grosse voiture dans votre garage. Donc, en gros, il y avait une vision un petit peu comme ça, l'évangile de la prospérité, qui nous pousse des fois à croire que Dieu favorise ce genre de réussite. Et puis, si vous regardez dans la Bible, alors, ce n'est pas tout à fait aussi clair, parce que vous avez, par exemple, des gens comme Rahab, qui est prostituée, qui est une des aïeules de Jésus, quand même. Donc, prostituée, c'est pas... Même à l'époque, hein, ce n'était pas un job extrêmement bien vu. Vous avez Matthieu, il est collecteur d'impôts, il devient disciple. En gros, c'est un gars qui est corrompu. Enfin, en clair, ça veut dire ça. Et puis Jésus, il est charpentier. Enfin, c'est pas plus, vous voyez, en termes de prestige, c'est pas le fils d'un grand roi ou je sais pas quoi, terrestre, j'entends. Mais on a donc des exemples de gens qui n'ont pas forcément réussi professionnellement, même Paul qui est faiseur de tentes, hein, c'est pas, et qui néanmoins ont travaillé pour le royaume. Donc si ce n'est pas une punition, le travail, et si ce n'est pas non plus notre seul moyen de se réaliser, du coup, peut-être, que c'est la vocation. Donc, punition, non, réalisation. Il y en a deux qui suivent. Alors, réalisation, non, et vocation peut-être. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, l'histoire de la vocation, ça vient de Luther, en l'occurrence, que vous reconnaissez ici, sur un selfie. En l'occurrence, Luther a été le premier qui a utilisé le terme Beruf pour parler du travail. Et Beruf, alors moi qui parle couramment l'allemand, je peux vous le dire, en fait, ça vient du verbe rufen qui veut dire en fait appeler. Donc c'est-à-dire que le Beruf, c'est en fait l'appel pour faire un travail. Ce n'est pas le tripalium. Ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi en français et allemand, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde sur le terme. Mais le travail est vu comme étant un appel de Dieu pour un plan plus global, pour la société en l'occurrence. Et là, je vous cite Luther, qui nous dit « Le cordonnier chrétien fait bien son travail de cordonnier, non pas en mettant des petites croix sur des chaussures, des croix chrétiennes, hein, mais en créant des chaussures de qualité parce que Dieu s'intéresse à la cordonnerie. » En l'occurrence, il y avait une question, c'est un cordonnier qui dit « Mais bon, toi, t'es pasteur, enfin prêtre à l'époque, et moi, je suis cordonnier, comment je peux être un bon cordonnier ?» Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ne hiérarchisent pas. Ils ne hiérarchisent pas les jobs entre les jobs bien, pasteur, et puis les jobs pas bien, cordonnier. Il y a d'ailleurs un autre théologien que j'ai trouvé en faisant deux, trois recherches, que j'ai trouvé assez bon là-dedans. Alors, je vais vous le lire, c'est un petit peu long, mais qui nous dit « Nous pensons qu'évangéliser, annoncer l'évangile et enseigner la parole sont les seules actions à avoir de l'importance pour le royaume de Dieu. Tout le reste est secondaire, mais cette pensée est simplement contre ce que dit la Bible. Il nous est appelé à être dans d'autres emplois et de l'honorer, quel que soit notre métier, quel que soit le métier que vous faites. C'est un appel saint, sacré, une responsabilité qui vous est donnée par Dieu pour le servir ici. » Et en l'occurrence, ça reprend à peu près la même idée que Luther, on ne fait pas de hiérarchie entre, d'une part, les métiers qui rapportent beaucoup, les métiers intellectuels ou manuels, l'artisanat, le commerce, la technique, tous sont censés être des métiers dignes et spirituels. Alors après, la question, c'est comment être un bon dans son travail et en étant chrétien. Vu que c'est un moyen de montrer son amour de Dieu aux autres, en faisant bien son travail, comment est-ce qu'on peut le faire bien en étant dans son job ? Alors Tim Keller, qui est un pasteur new-yorkais que je recommande chaudement, disait, pour un pilote d'avion, c'est quoi un bon pilote d'avion chrétien par rapport à un athée, par exemple ? Il dit, si t'es un bon pilote chrétien, tu fais quoi ? Pose ton avion. Là, tu vas montrer l'amour de Dieu pour les gens qu'il y a dans ton avion, en faisant bien ton job. En l'occurrence, ça tendrait à dire qu'il n'y a pas de job, alors désolé David, mais il n'y a pas de job mieux comme pasteur que d'autres. Alors que la société, elle fait une hiérarchie en partie sur le revenu, hein, sur le statut social, la taille de la voiture, la maison, etc. Mais dans l'Église, on fait aussi ça. Vous ne me croyez pas ? Alors je vous donne les jobs qui sont bien vus dans l'Église. Alors premier, c'est pasteur, hein, si vous êtes pasteur, c'est quand même bien. Ou missionnaire, ça c'est encore mieux. Ou missionnaire, pasteur, les deux. Alors après, je pense un petit peu les métiers de type sociaux, médecin, infirmière, ça c'est bien parce qu'on aide les gens. Ça c'est positif, tout ce qui est dans le côté médecine. Je pense aussi, je ne dis pas ça parce que je suis enseignant, mais je pense qu'on aime bien les enseignants aussi parce qu'ils vont convertir leurs élèves. Donc ça, c'est que des jobs à haute valeur ajoutée, assistants sociaux aussi. Alors ça c'est parfait parce que vous allez aider les gens, leur parler de Jésus en passant. Donc ça, c'est les bons jobs. Après, il y a les métiers plutôt neutres. Par exemple, architecte, bon. Mais bon, ça peut être pratique dans une église. Comptable aussi, c'est pas non plus, mais ça peut être pratique. Décorateur ou décoratrice d'intérieur. Ça peut être pratique des fois dans une église, si vous refaites l'église. Ou designer aussi. Hein, pour le designer, ça peut être pratique parce qu'ils font des jolies mises en page, etc. Mais c'est assez neutre, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Puis après, il y a les jobs pas bien. Si vous travaillez dans le back-office d'une banque, hein, donc vous êtes chez Mammon, vous travaillez pour le Monde, ça c'est pas bien. Assureur, artiste. Sauf si vous faites de la musique le dimanche. Bon, ça va. Mais en dehors de ça, les artistes, en plus, c'est dans les milieux super louches, donc ça ne va pas du tout. trader, banquier, gérant de fortune. Le pire truc. Et d'ailleurs, juste donner une anecdote, ça fait plus de 15 ans, il y avait un culte ici, et le président, il n'est plus dans l'Assemblée, je ne dirais pas qui c'était, vous ne trouverez pas. Le président, avant, c'était au mois d'août, dit « Ah oui, alors il y a la rentrée, formidable, alors on va remonter les enseignants sur scène, priez pour eux. » Ah, formidable, il dit « Ah, alors David, tu peux monter, alors bon, je monte. » Il dit « Ah, bah Carole aussi, tu peux monter. » Et parce qu'il s'est dit, vu qu'elle n'est pas infirmière, elle doit certainement être enseignante. Donc, il fait monter moi sur scène, formidable, et puis ma femme, Carole. Et Carole ne travaille pas du tout dans l'enseignement. Travaille dans une banque. Enfin, elle travaillait dans une banque à l'époque, marketing, communication, et commence à prier. Et juste avant, on lui fait « Non, mais en fait, elle n'est pas enseignante. » Et il était très embêté. Il dit « Comment est-ce que je peux prier pour une banquière ?» Alors, il a quand même prié. Hein, il n'a pas dit « Bon, tu peux aller te rasseoir. » Mais il a quand même prié pour elle. Mais c'était assez rigolo parce qu'en fait, il était très embêté. Et je pense que, quelque part, ça illustre assez bien la tension qu'on a et la vision que dans nos églises, on a aussi sur cette hiérarchisation qu'on a. On a aussi, enfin, si on fait bien notre job, on va aussi avoir une influence sur le monde extérieur. Et nous, on a tendance à tourner un petit peu en vase clos. On demandait à C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, celui qui a fait le monde de Narnia, qui a écrit des tas de bouquins de théologie et autres, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'écrivains chrétiens, donc qui font des livres pour les chrétiens? Et il a eu cette réponse que je trouve assez bonne. Il dit non, en fait, nous avons besoin de plus d'écrivains qui soient chrétiens, et pas d'écrivains chrétiens. C'est clair ce que je dis ou pas? Vous avez compris la différence? Et en l'occurrence, je pense qu'il faut en fait procéder ou prendre la même manière de procéder qu'compris la communauté homosexuelle. Pourquoi? Parce que les homosexuels n'ont pas fait que des livres pour les homosexuels, ou des films, ou de la musique homosexuelle, ou des films homosexuels, parce que là, vous ne parlez que aux gens qui sont d'accord avec vous. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des films, des livres, de la musique, etc., en dehors. Le but est simple, c'est que vous faites passer vos valeurs auprès d'autres gens. Et nous, on a un petit peu tendance à tourner en vase clos, on dit c'est super d'être pasteur, donc c'est très très bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est souvent très interne. On s'occupe de nous, on ne s'occupe pas tellement en dehors. Et en l'occurrence, je pense qu'on gagnerait à essayer d'être moins communautaire dans notre manière de voir, de plus regarder à influencer le monde autour de nous pour faire passer nos valeurs à nous. C'est peut-être plus difficile que de parler à des gens à l'interne qui sont déjà d'accord avec vous au départ. C'est un petit peu plus compliqué. Et en l'occurrence, alors je vous donne juste 2-3 exemples, mais vous prenez c'était le chanteur YouTube Bono, qui lui donne des interviews où il parle de sa foi. Vous avez des gens comme Tolkien, C.S. Lewis ou Martin Luther King qui ont, eux, fait leur job comme il faut et sérieusement en dehors et qui ont un impact sur le monde. Et par ailleurs, après, ils parlent de leur foi. Mais ils n'ont pas cherché à avoir d'abord un impact à l'interne. Ils ont essayé d'avoir un impact plus global. D'ailleurs, à la fin, parce que je vais vous faire faire un petit exercice, c'est mon côté un peu prof. Vous allez entendre en bruit de fond une musique qui vient de Lauren Daigle, qui est une chanteuse qui est donc chrétienne, mais qui marche quand même sur les radios non chrétiennes. Et puis, je vais vous faire un petit exercice. Mon assistant va passer des post-it. Ne faites pas ça sur votre smartphone, parce que sinon vous allez parler de votre smartphone avec votre voisin, avec votre voisine. Donc, il y a des post-it qui vont arriver avec des stylos qui vont arriver aussi. Et je vous propose de faire en 3 étapes. Premièrement, vous écrivez le nom de votre activité principale maintenant. D'accord ? Dessus, vous écrivez ce que vous faites. Et puis, vous montrez à votre voisin, à votre voisine, celui qui est devant, qui est derrière. Maintenant, là, tout de suite, ça va venir. Mon assistant travaille très, très, très dur. Vous allez écrire sur un post-it votre activité principale et vous allez le montrer à votre voisin ou à votre voisine. Et vous n'allez pas dire ce que vous en pensez. Et c'est l'autre qui va vous dire en quoi il pense que votre activité peut être une vocation, un appel, une bénédiction pour les gens autour de vous. Ce n'est pas vous, hein. Vous ne dites pas « je suis une bénédiction pour... ». Vous regardez le travail, l'activité principale de votre voisin ou votre voisine, et puis vous essayez de voir que l'autre vous dise en quoi il pense que ceci est une vocation, et en quoi vous pouvez avoir, via votre travail, une bénédiction. Vous pouvez être une bénédiction pour l'ensemble de la communauté. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai dit ou bien ? T'as pas compris ? Alors, vous écrivez votre job. Moi, par exemple, je marque prof au gymnase. D'accord ? Je me tourne vers mon voisin, qui est, je sais pas, pilote d'avion. Je lis pilote d'avion et je dis, ben voilà, je pense que tu peux être une bénédiction dans ton job en tant que pilote, parce que ça, c'est à vous de trouver. Et lui devrait me dire, ben, je pense que tu peux être une bénédiction en tant que prof au gymnase, parce que ça, c'est à vous de trouver. Donc, essayez de réfléchir en quoi le job de l'autre, l'activité de l'autre, peut être une bénédiction, peut être une vocation pour la communauté et les gens qui sont autour d'elle et de lui. Et en bruit de fond, vous aurez justement, ça vous permettra de parler librement, la musique de Lauren Daigle, qui, elle, a une vocation très claire, qui est de parler justement de Dieu en dehors. Maintenant que vous avez enfin réussi à savoir quel était le job de votre voisin, que vous n'aviez pas forcément osé demander, je vous laisse juste avec cette conclusion qui est le slogan de la fête des vignerons. En latin, ora et labora, qui veut dire prie et travaille. Voilà. Ce sera donc la conclusion et je termine ici.